la bibliothèque en vadrouille aux journées d'études ABED, 32e édition. Nous sommes donc en ce 17 septembre, un petit instant avec Lise Bourdeau-Lepage. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez ce matin de donner une des premières interventions de ces journées d'études autour, puisque vous êtes économiste, mais je vais vous laisser vous présenter et géographe davantage, autour de la notion d'attractivité à travers un énoncé assez théorique au départ, puis après avec des exemples plus concrets. Voilà, donc peut-être si vous voulez bien vous présenter en quelques mots vos activités, et ensuite on essaiera de rebondir à quelques points de votre intervention.
D'accord. Donc je suis Lise Bourdeau-Lepage, je suis professeure de géographie. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai un doctorat en économie. Aujourd'hui, j'ai des travaux qui portent sur l'attractivité. Donc en fait, il s'agit de saisir quels sont les éléments qui peuvent permettre un territoire d'être attractif. Et la posture qu'on a choisie, enfin, ou du moins le point d'entrée qu'on a, c'est une entrée habitante. Donc qu'est-ce qui fait les éléments explicatifs du choix de localisation des individus? Donc on part de leur bien-être, et à partir des éléments qui sont potentiellement constitutifs de leur bien-être, on arrive à déterminer ce qui permettrait à un territoire d'être attractif, ce qui lui manque, quels sont ses manques, quels sont ses points forts, ce qui permet d'analyser finalement une éventuellement de mettre en place une politique d'attractivité en partant de l'habitant, pour avoir un regard un peu différencié qui d'habitude est celui plutôt des politiques, j'allais dire un peu standard, attractivité pour les entreprises et ou touristiques. Donc nous, on se met un petit peu, on fait un pas de côté en pensant plus à la question des habitants. Voilà.
Alors, pour ce qui est alors justement, j'avais...
de ce que je fais aujourd'hui. Alors évidemment, je travaille, vous l'avez compris, également sur le bien-être, mais également sur la nature en ville, et évidemment d'essayer de déterminer quelles sont, comment on peut mobiliser la nature sans pour autant l'instrumentaliser pour qu'on ait un cadre urbain qui soit plus amène et qui correspondent aux désirs des populations, et qui puissent aussi être assez répartis de manière assez équitable sur un territoire urbain. Voilà, je travaille aussi sur cette question-là, mais c'est en lien avec l'attractivité et le bien-être également.
Alors, pour en revenir à la question des bibliothèques, puisque vous l'avez évoqué en tant que toujours chercheuse, puisque je pense que comme vous, on ne s'arrête jamais de chercher dans votre domaine. Vous avez évoqué de manière un petit peu anecdotique la fréquentation d'une bibliothèque, en particulier de la BNF, dans laquelle vous vous rendez souvent pour vos recherches. Mais la question, peut-être pour en revenir justement à la thématique de ce congrès des médiathèques départementales, il y avait un élément, moi, qui m'a frappé, c'est justement, est-ce que vous, dans vos analyses et dans vos synthèses, vous croisez justement les paramètres qui concernent les entreprises et les ménages? Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes préoccupations. Alors, est-ce que vous arrivez à savoir s'il y a des paramètres communs?
Oui, tout à fait. Oui, en fait, l'idée, c'est justement on sait aujourd'hui que les choix de localisation des entreprises, elles vont être liés à la qualification de la main-d'œuvre, elles vont être liées à l'accessibilité des marchés, elles vont être liées aux infrastructures qui sont présentes sur le territoire. Mais dans le contexte actuel, le cadre de vie des employés de ces entreprises va être un élément déterminant du choix de localisation de ces entreprises. Donc du coup, c'est par là qu'on arrive à faire le lien entre d'un côté les analyses sur le bien-être en partant des individus, et puis de l'autre côté les analyses qui sont plus dédiées, on va dire, aux entreprises. Sachant aussi que tout individu choisit sa localisation en fonction aussi de son lieu de travail. Donc du coup, la boucle est bouclée. Ça permet finalement de croiser les regards de ce point de vue-là.
Voilà. Alors, peut-être un ultime mot pour évoquer une édition qui vient donc de sortir, Nature en ville, désir et controverse. Donc ça, c'est un ouvrage dont vous avez assuré la direction, un ouvrage collectif. Peut-être nous en dire un mot puisqu'il vient de sortir.
Oui, donc cet ouvrage Nature en ville, désir et controverse, c'est un ouvrage en fait où on a fait intervenir des praticiens, il y a un chef d'entreprise qui a écrit dedans, et des chercheurs, des articles très courts autour d'une dizaine de pages. Ce n'est pas de la vulgarisation, mais disons c'est une mise en débat des sujets qu'ils traitent dans leurs recherches. Et donc on parle aussi des pratiques de la nature en ville, on va parler des besoins de nature de la population, et puis aussi de la manière dont on peut concevoir aménager une ville de manière à ce qu'il y ait plus de nature ou qui corresponde en prenant en compte plus les éléments végétaux. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, un petit peu positive et habituelle. Mais de l'autre côté, on va regarder aussi quelles sont les controverses de la nature en ville. Typiquement, on pense toujours la nature de façon très positive, mais elle peut être aussi objet d'aménité négative quand on pense aux allergies, au pollen. C'est de la nature en ville quand on pense aussi parfois aux pigeons et aux rats. Enfin voilà. Donc des effets qui, souvent le végétal apparaît comme positif toujours et puis l'animal on le met de côté. Donc en fait on travaille un peu à ces effets-là, à quelques analyses sur les controverses. Est-ce qu'on ne peut pas dans certaines situations instrumentaliser la nature pour éviter certaines pratiques urbaines, hein, par exemple comme les gens qui dorment en dessous des arcades parce qu'elles sont protégées, on va mettre des bacs. Voilà. Donc il y a une façon de voir qui permet d'avoir plusieurs points de vue sur la nature en ville et qu'il soit pas forcément, qui nous donne à penser un peu plus loin. Et à destination du grand public, de chercheurs, puis des aménageurs, des acteurs. C'est pour ça qu'il est dirigé par la librairie des territoires, parce qu'ils sont très axés collectivité territoriale. Donc, voilà.
Alors j'avais une ultime, peut-être pas forcément une question, mais sous une forme de rebond, puisque vous avez évoqué ce matin dans votre communication la présence notamment d'un square comme étant un des éléments clés dans un des éléments du bien-être pour les ménages. Et alors, peut-être que, en tout cas moi ça m'a évoqué ça, parce que je ne connais pas bien sûr toutes les médiathèques de France, mais étant moi-même médiathécaire, j'en ai visité comme bon nombre de collègues ici un certain nombre, et j'ai en tête, alors c'était pas une médiathèque départementale, mais c'est un des derniers équipements de la ville de Paris, qui est la médiathèque Sagan, dans le 10e arrondissement, qui est une médiathèque assez incroyable, puisqu'il y a effectivement un jardin, un square, assez magnifique, à proximité de cet équipement. Est-ce que vous, dans vos propres déambulations, dans des équipements culturels, et en particulier dans les médiathèques, il y a une médiathèque qui vous viendra en tête, on va dire, pour sa conception, qui pourrait essayer d'allier justement cet aspect lieu de connaissance et en même temps proximité de la nature?
La médiathèque que vous venez citer à Paris, sinon la plupart des médiathèques, moi je ne vais pas dans les médiathèques, je vais plutôt dans des bibliothèques universitaires. Moi je pense évidemment à la médiathèque bibliothèque qu'il y a sur la rue Tolbiac, qui est juste rue Tolbiac à côté du site de la fac de Paris 1. Et là elle a un fond assez riche, elle est assez bien conçue, on peut parler avec les bibliothécaires. Donc je ne dis pas que c'est un exemple, mais elle est insérée dans la vie de quartier. Et c'est ça qui fait sa force. La seule désolation, c'est que le lundi matin, elle est fermée. Et donc, du coup, il n'y a pas de concertation sur l'ouverture entre les différents les équipements, si on peut. C'est vrai que c'est un équipement, mais c'est aussi un lieu social. Donc, c'est un peu embêtant de qualifier la bibliothèque seulement d'équipement. Mais enfin, entre ces différents lieux culturels, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait une répartition de l'ouverture, parce que du coup, le lundi matin, on ne fait pas grand-chose. Mais moi, oui, je l'ai fréquenté quand j'étais étudiante et c'est un refuge, en fait, quelque part. La bibliothèque, les bibliothèques sont des lieux de refuge, qu'ils soient des lieux de refuge pour réfléchir, pour se retrouver, comme un peu les parcs où on y va pour réfléchir, pour se retrouver. On y va aussi pour lire. Dans une bibliothèque aussi, on peut aller pour lire. On y va pour travailler. On y va aussi dans le parc pour corriger des copies. Donc, les pratiques, en fait, j'allais dire, si on réfléchit la pratique entre le parc ou le square et la bibliothèque, d'une certaine manière, elles peuvent être similaires. Évidemment, dans une bibliothèque, on ne va pas manger, on ne va pas faire un pique-nique. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a toute une partie où on peut avoir accès à la culture, à la connaissance, qu'est un lieu, en fait, un espace où on peut s'y adonner. Donc il y a un lien peut-être à faire entre le désir de nature et le désir de bibliothèque. Peut-être, j'y avais pas pensé, mais votre question m'y fait penser.
Merci d'avoir pris ce petit temps en rebond à votre communication de ce matin et bonne continuation dans cette journée d'études. Et je sais que vous devez malheureusement repartir, mais en tout cas, merci encore au nom de tous les collègues pour votre communication.
Merci beaucoup, merci à vous.